Radio Okapi.
Bienvenue à la grande édition dominicale vespérale de nos informations avec Pascal Massilika.
Au sommaire de cette édition, 4 personnes tuées et une vingtaine d'autres prises en otage. Bilan des atrocités commises par des rebelles ougandais de l'EDF en l'espace de 10 jours à Bahemaboga, au sud du Dirumu en Ituri. Les FARDC assurent que les opérations se poursuivent. Les inspecteurs de l'enseignement primaire et secondaire menacent d'aller en grève au 30 mai prochain. Ils réclament du gouvernement central le paiement de leurs primes et l'amélioration de leurs conditions de travail. Notre invité, c'est le coordonnateur des infirmiers du Grand Nord Kivu. Vake Okelo affirme que la modicité des salaires des infirmiers de son ressort s'ajoute aux défis sécuritaires auxquels font face ces infirmiers tous les jours. Madame, Messieurs, bonsoir. En Ituri, 4 morts et une vingtaine de personnes prises en otage. C'est le bilan des atrocités commises par les rebelles ougandais de l'EDF en l'espace de 10 jours dans la chefferie de Bahemaboga au sud du territoire du Rumu. La société civile locale affirme que l'impact de la force de mutualisation entre les FARDC et l'armée ougandaise n'est pas visible car les exactions de ces miliciens se poursuivent. De leur côté, les FARDC indique que la situation s'est nettement améliorée dans la zone et que les opérations se poursuivent. Le récit d'Isaac Remoyopé.
La situation sécuritaire s'est détériorée depuis le début du mois de mai en cours dans la chefferie de Boga après plusieurs mois d'accalmie, rapporte la société civile locale. Le 5 mai dernier, plus de 15 personnes ont été kidnappées à Tondoli, un village proche, précise son président. Il ajoute que 9 parmi les otages ont réussi à s'échapper, d'autres sont encore entre les mains de leurs ravisseurs. 5 jours après, ils ont enlevé 7 autres habitants à Kapasa. Les corps des 4 otages ont été retrouvés mercredi et jeudi dernier. La population vit dans la peur et n'accède plus à ce champ malgré la présence des FARDC et de l'armée ougandaise, indique Albert Basseke, président de la société civile.
Ces opérations-là n'aident pas totalement la population. On parvient à tirer la paisible population à quelques kilomètres là où il y a la base des Ougandais. Alors, on ne sait pas si réellement ils sont venus faire la sécurité ou pas. Mais la population continue toujours à souffrir.
Les porte-parole de l'armée exhortent la population à la vigilance car les opérations militaires contre ces groupes armés se poursuivent. Le lieutenant Gilles Ngongo.
Nous rassurons encore une fois notre population que notre détermination sera à ce que nous puissions faire les armes complètement dans cette région et restaurer l'autorité de l'État.
Cette multiplication d'attaques des ADF a découragé de nombreux déplacés à regagner leurs milliers d'origines qui, selon eux, ne sont pas encore sécurisées. Bounia Isakre Moyope, Radio Okapi.
Les FARDC n'ont aucune alliance contre nature avec les groupes armés qu'elles combattent. Mise au point faite ce week-end par le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Nord Kivu. Le colonel Guillaume Njike Kaiko réagit ainsi au communiqué publié par le M23 jeudi dernier dans lequel ce mouvement rebelle dénonce des alliances que les FARDC seraient en train de nouer avec certains groupes armés. Cet officier parle de dénonciations mensongères et calomnieuses. En revanche, le secteur opérationnel Sokola 2 accuse le M23 de violer les recommandations du conclave de 4 chefs d'État tenus à Nairobi au Kenya. Son porte-parole accuse le M23 de renforcer ses rangs par les recrutements de jeunes et de commettre des exactions contre des civils. On l'écoute dans cet extrait recueilli par Denise Lukeso.
Il continue d'occuper les collines de Tchanzu et Runyoni au mépris des conclusions du dit conclave. Ce mouvement invoqué a violé le cessez-le-feu à plusieurs reprises en attaquant les positions des FARDC de Rwanguba, Tchengereru, Kabindi et Bugusa, dont les dernières attaques remontent à la date du 23 et 27 avril 2022. Ce mouvement continue à renforcer ce rang par les recrutements, la formation des jeunes, leur promettant du travail, grade et la nationalité congolaise, il faut ainsi dire que le M23 n'a pas encore renoncé à toute initiative de combat. Sur le terrain, le M23 se livre à des exactions de tout genre sur la population, notamment la vandalisation de l'église catholique de Djoma, viol des femmes, filles mineures qui se rendent au champ, traitement dégradant et inhumain sur la population qui tente d'accéder dans la zone sous leur contrôle. Le M23 n'a jamais délibérément cédé le terrain comme il le prétend dans son communiqué.
Nord Kivu encore, l'insécurité ce jour-ci dans la chefferie de Bachou influe négativement sur les développements de cette entité du territoire de Beni. L'association des producteurs agricoles de Vuhimba affirme que cette situation est à la base de la hausse de prix des denrées alimentaires, ce qui provoquerait certains cas de malnutrition sévère dans la région. À Beni, la correspondance de Guylaine Kassassia.
À ces jours, une grande partie de la chefferie de Bachou du territoire de Beni est touchée par l'activisme des groupes armés. Cette situation est souvent à la base des déplacements de plusieurs habitants vers des milieux jugés sécurisés. Conséquence, le prix de plusieurs denrées alimentaires a galopé et d'autres deviennent rares sur le marché. Une situation qui, selon le directeur de l'organisation paysanne Association de producteurs agricoles de Vuhimba APAV, freine le développement de la région. Kambale Kamabu, Deo Gracias.
L'insécurité. Est-ce que la chefferie de Bachou, les gens ne travaillent plus? Par exemple, à ce qui nous concerne, à 2020, nous avions des champs au niveau du Graben, nous avions entreposé autour de 100 tonnes de riz padi. Mais alors, à 2021, nous avons entreposé 0 kilo. Donc aujourd'hui, je peux dire que c'est vraiment la famine. Depuis 1993, nous avions éradiqué totalement le kwashiorkor. Mais aujourd'hui, nous risquons encore de retourner à la case de départ. De nourriture de qualité.
Il lance un appel au gouvernement pour le renforcement des forces de défense et de sécurité dans cette zone. D'après lui, cela permettra aux habitants d'avoir accès facile à leurs champs dans la chefferie de Bachou, considérée comme l'un des greniers de la ville de Butembo. Beni, Guren Kassassia, Radio Kapi.
Ouvrons maintenant une page politique. Toutes les initiatives visant à créer des changements dans les organes délibérants sont interdites dans les provinces où se sont déroulées récemment les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a instruit les autorités concernées dans un message d'hier, samedi. Cependant, cette mesure de l'autorité ministérielle est mal accueillie à l'Assemblée provinciale du Bas-Uele où devait être installé ce lundi le bureau d'âge en vue de l'élection des nouveaux membres du bureau de l'organe délibérant. Pour en parler, retrouvons à Kisangani Jacques Mkonkole.
Après le retrait de la confiance aux membres du bureau le 12 mai dernier par 13 députés sur 18 que compte l'Assemblée provinciale, c'est ce lundi que l'installation du bureau d'âge devait avoir lieu. Cependant, le ministre de l'Intérieur s'y oppose, Madame Ruth Badouli, gouverneure de province par intérim.
Nous avions pris la décision aussi hors de la réunion de sécurité pour aller installer les brigadiers de la province à y installer le bureau d'âge les lundis à 10h. C'est la nuit que nous avions reçu le message officiel du VPM suspendant toutes les initiatives depuis les élections.
Les députés provinciaux du Bas-Uele estiment que cette mesure du ministre de l'Intérieur vient cimenter les désordres dans leur assemblée. Antoine Gombo-Lipaye, leur rapporteur.
Les 13 députés qui ont déjà décidé à arrêter leur confiance aux 5 membres du bureau ne pourront jamais accepter un jour que la plénière soit convoquée par ce bureau qui est déjà déchu. Alors vous comprenez avec moi qu'il faut que le vice-ministre nous laisse la latitude de passer aux élections afin de choisir les nouveaux membres du bureau qui pourront nous accompagner afin aussi de matérialiser la vision du chef de l'État.
Le ministre de l'Intérieur justifie sa décision par la nécessité d'investir urgemment par ordonnance présidentielle les nouveaux gouverneurs élus. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Dans un autre chapitre, les inspecteurs de l'enseignement primaire et secondaire réclament du gouvernement central le paiement de leurs primes et l'amélioration de leurs conditions de travail. Ces requêtes ont été formulées lors d'une assemblée générale tenue ce samedi ici à Kinshasa. Les participants ont donné jusqu'au 30 mai prochain pour que ces litiges soient réglés au plus vite. Faute de quoi, ils menacent d'aller en grève et boycotter en même temps les épreuves préliminaires de l'examen d'État. Des précisions avec le secrétaire général du syndicat des inspecteurs, Henri Christin Longenja.
Ils sont dans le regret de constater que les documents importants que le ministre devrait signer par rapport à des primes des inspecteurs, par rapport à l'affectation d'un sous-gestionnaire de crédit propre à l'inspection, le ministre n'a pas signé ces documents importants. Donc c'est une réponse négative du ministre par rapport à l'issue de ces négociations. Vu le silence du gouvernement quant à ces les inspecteurs ont donné un ultimatum au gouvernement congolais avec un préavis qui court à partir de cette déclaration. Donc d'ici les 30, si le gouvernement ne résout pas les problèmes des inspecteurs, si le gouvernement ne paye pas des primes, si le gouvernement ne cherche pas à améliorer les conditions des inspecteurs, les 30 de ce mois, les inspecteurs iront en grève et cela sur toute l'étendue du territoire national.
Et puis, fabrication des batteries électriques en RDC avec l'installation d'une usine pilote à Lubumbashi. Intéressé par ce grand projet africain, CATL, une entreprise technologique chinoise spécialisée dans la production des accumulateurs lithium-ion pour les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie et les systèmes de contrôle des batteries d'accumulateurs a dépêché pour cela une équipe en RDC conduite par Li Changgong. Cette délégation chinoise a échangé hier samedi à Kinshasa avec le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaungia, pour la concrétisation de ce projet. C'est ce que nous explique Pierrot Elamiji.
Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a expliqué à ses hôtes que la RDC dispose des gisements très importants de minéraux qui interviennent dans la fabrication des véhicules et batteries électriques avec les lithium, les cobalt et le manganèse. La protection des investisseurs intéressés par la RDC est l'une des priorités du gouvernement Samalou Kondé, a ajouté le ministre de l'Industrie en rassurant ainsi CATL plus que déterminé de venir s'installer à RDC. Les assurances du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et du gouvernement ont été salués par les envoyés de cette entreprise chinoise spécialisée dans l'industrie des véhicules et batteries électriques. Le ministre a affirmé à l'issue de cet entretien que ce grand projet va booster l'économie congolaise avec la création des richesses et d'emplois.
Le ministère de la Santé publique a lancé hier samedi la campagne de dépistage volontaire des hépatites dans les zones de santé de la ville de Kinshasa, objectif visé par le coordonnateur du projet Tokolonga Hépatite, aider le gouvernement congolais à rassembler au plus vite les données fiables sur les hépatites qui constituent ce jour-ci un véritable problème de santé publique en RDC. Docteur Pascal Tchimala le dit à Tatimapuku.
En fait, les activités que nous allons mener au cours de la période du 13 mai à la période du 28 juillet 2022, c'est de préparer la journée mondiale. À l'occasion de cette journée mondiale, nous allons pouvoir manipuler des données qui viendraient de ce que nous sommes en train de faire ici, c'est-à-dire le dépistage dans les zones de santé. Et donc, nous allons commencer par la phase de 3 zones de santé et la deuxième phase, c'est les 35 zones de santé de la ville province de Kinshasa. Et le programme sera intitulé « Kinshasa ne peut plus attendre ». Kinshasa veut tout de suite aller à la prise en charge. C'est pour cela que nous allons étendre ces enquêtes à toutes les zones de santé, les 35 zones de santé de la ville province de Kinshasa.
Actualité internationale.
Ouverture ce dimanche à Durban en Afrique du Sud d'une conférence mondiale sur l'élimination du travail des enfants. Plus de 4000 représentants des gouvernements, des syndicats, du privé comme de la société civile prennent part aux assises. Des progrès ont été réalisés mais dans le monde entier les chiffres sont en hausse et la pandémie du coronavirus y est pour quelque chose. Aux Émirats Arabes Unis, les dirigeants du monde entier se succèdent pour honorer ce week-end la mémoire du président cher Khalifa Ben Zayed qui est décédé vendredi dernier à l'âge de 73 ans. Emmanuel Macron, qui est arrivé ce dimanche après-midi à Abu Dhabi, a poussé le Premier ministre Jean Castex à annuler son voyage au Vatican, preuve du rôle stratégique des Émirats Arabes Unis pour le président français. Et puis en Chine, la moitié des centres de quarantaine ont fermé leurs portes ce week-end à Shanghai, signe d'un recul spectaculaire des infections. Même si le retour à une vie normale semble encore loin pour les confinés. Même chose à Pékin, la capitale, où les restrictions sanitaires ont encore été renforcées ce dimanche.
L'invité.
Notre invité, c'est le coordonnateur des infirmiers du Grand Nord Kivu, Vake Okelo, affirme que la modicité des salaires des infirmiers de sa zone s'ajoute aux défis sécuritaires auxquels ils font face tous les jours. Il s'entretient avec Sadiki Aboubakar.
Monsieur Vake Okelo, bonjour.
Bonjour.
Quel état du lieu faites-vous de la situation de l'infirmier aujourd'hui dans le Grand Nord Kivu?
Les infirmiers, comme les autres professionnels de santé et administratifs dans la partie Grand Nord, travaillent dans les contextes très compliqués, très difficiles. S'agissant de la sécurité, certaines structures sont déjà incendiées, les médicaments sont pillés. Nous avons des infirmiers qui restent retenus jusqu'à aujourd'hui. Nous ne savons pas s'ils sont encore vivants ou bien s'ils sont déjà morts.
Et par là, toujours de l'insécurité, il y a des cas de structures de santé qui ont été fermées.
Oui, il y a des structures de santé qui ont été fermées, même si on ne peut pas avoir l'effectif juste. Mais si nous entrons à la zone santé d'Oicha, plus de la moitié, les structures sont déjà fermées. Et donc là, les populations sont obligées de se déplacer pour aller se concentrer dans certaines structures. Et vous comprenez que les agents aussi feront face à une grande population, mais qui n'a rien, alors que le gouvernement ne prend pas à charge ces agents qui devraient vivre de ces recettes locales.
Oui, vous avez évoqué le problème des projets de gratuité des soins. Comment est-ce que ces projets empiètent les conditions des infirmiers?
Le projet de gratuité des soins, nous avons PRODES et PDSS. Il y a certaines zones qui sont dans l'aide de ces projets. Et il faut dire que ces projets sont tels que le strictif sanitaire soigne les malades gratuitement. Après les soins, le partenaire vient faire la vérification. Maintenant, il arrive des fois qu'on ne s'attend pas entre la structure et le partenaire à terme des normes. Même si la structure estime que les normes ont été respectées, mais le partenaire va dire non. Et cela fait qu'il y ait un manque à gagner parce que le malade a pris le médicament et il a été pris à charge par le soignant et il est parti.
Et le partenaire ne vient pas payer la facture.
Il ne vient pas payer, ça signifie que c'est une perte pour la structure. Maintenant, la facture qui a été aussi retenue tarde d'être payée. Et pendant ce temps, 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, on ne sait pas comment la structure peut continuer à prendre à charge les malades, mais aussi les agents qui travaillent dans la structure.
L'année dernière, les infirmiers dans le Grand Nord Kivu, particulièrement, sont allés en grève pendant près d'une année. Il y a eu quand même des issues favorables de la part du gouvernement. Et est-ce que les conditions sont quand même améliorées dans ce sens?
Il faut dire que la situation est déplorable. Le protocole avait été signé entre le bas gouvernemental et le bas syndical à terme de dire que on va cette fois-ci respecter l'alignement de nos primés et aussi on va élaguer l'effectif si les risques qui continuent à consommer l'argent de l'État ça travaille. Si je peux prendre l'exemple de la partie Grand Nord, si nous trouvons aussi 17 zones de santé, 40 infirmiers qui ont été ajoutés à la prime de risque et aux côtés de ces 40-là, on trouve aussi des omis. On ne peut pas dire qu'il y a une réponse alors qu'on promettait aligner un bon nombre par trimestre. Ça signifie que
donc vous estimez à quel pourcentage le nombre des infirmiers qui sont alignés à la prime des risques actuellement?
Non, c'est moins 2%. Mais si je parle de ceux qui bénéficient, c'est difficilement 60%. Pour les salaires, c'est difficilement 8%.
Vous voulez dire que dans le Grand Nord Kivu, à peine 10% seulement des infirmiers reçoivent le salaire de l'État?
Même pas 10%. Il faut aller à terme même de 8%. Parce que je connais certaines zones où nous avons même deux agents dans toute une zone de santé.
Qu'est-ce qui explique cela?
C'est tout simplement l'indifférence du gouvernement. Alors que...
Ou bien il y a des critères que les infirmiers ne remplissent pas pour bénéficier du salaire.
Pas de critères. Une fois l'agent a été recruté, il est retenu, il est notifié comme un agent reconnu par l'État.
Il a un numéro matricule.
Il ne doit pas faire 2 ans sans qu'il ait un numéro matricule normalement. Nous avons fait 20 ans, 25 ans sans numéro matricule. On les a donnés à fait 2018. Voici, nous sommes à 2022. Ces numéros ne sont pas encore mécanisés. Voilà pourquoi nous parlons de l'indifférence du gouvernement.
Quel message vous avez au gouvernement pour ce qui est des conditions des infirmiers?
Ce n'est pas un message seulement qui concerne les infirmiers, mais c'est tous les agents secteurs de la santé. Le gouvernement devrait comprendre que rien ne peut évoluer sans la santé. Et une ségrégation qui sévit aussi dans le secteur de la santé a favorisé certaines catégories, défavorisé les autres.
Certaines catégories, vous voulez parler des médecins?
Oui, tout à fait. Là, c'est clair, on ne peut même pas mâcher le mot. Les médecins semblent être les affaires choyées, chéries du secteur de la santé. Alors qu'ils ne peuvent pas savoir tenir seuls, ça les sages-femmes, ça les infirmiers, ça les laborantins, nutritionnistes et autres. Et donc, on devrait comprendre que c'est la complémentarité et que la prise en charge devrait aussi respecter cela. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait de grève à grève. Nous savons qu'il y a des victimes de la grève passée.
Il y a eu plusieurs dizaines de morts.
Oui, les femmes qui ont accouché le long de la route, les enfants sont décédés, les grandes personnes sont décédées parce qu'ils n'ont pas eu d'assistance.
Et c'est pas que Okello. Merci.
C'est nous qui vous remercions.
C'était l'invité de Radio Okapi, le coordonnateur des infirmiers du Grand Nord Kivu, Vake Okello, affirmait que la modicité des salaires des infirmiers s'ajoute aux défis sécuritaires auxquels ces infirmiers font face tous les jours. Il était interviewé par Sadiki Aboubakar. Ainsi se referme cette édition d'information sur Radio Okapi. Il est 18h20 à Kinshasa. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Pierre-Oyé Lameji et Noëlla Luzitu Kabambi qui m'ont accompagné.